France Inter.
Vous écoutez France Inter. Bon réveil, nous sommes le vendredi 5 décembre 2025 et il est 5h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin. Au menu du 5-6 aujourd'hui, il peint des phares, des mers et des gens, portrait d'un artiste marin dans les chroniques littorales. Lui, c'est un artiste des fourneaux qui sera notre invité, déjà debout, apiculteur en Moselle. Il confectionne à l'approche de Noël des kilos de pain d'épices qu'il vend sur les marchés et il nous racontera ça à 6h moins le quart. Le grand reportage s'intéresse au lien de l'ex-premier ministre Dominique de Villepin avec le régime de Pékin. Juste avant 6h, café philo consacré au délicat sujet de la laïcité alors que la loi de séparation de l'Église et de l'État fête ses 120 ans. Et puis des femmes du groove des guitares pour nous réveiller ce matin dans ce 5-6. Marguerite, Bar Italia, les Pretenders et le Chata de la martiniquaise Meryl. Voilà, vous avez le programme pour démarrer et je vous accompagne jusqu'à 9h. Et on démarre avec le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Sébastien Lecornu va-t-il réussir à faire adopter le budget de la sécurité sociale?
En tout cas, les lignes sont clairement en train de bouger. D'abord parce que le temps est compté. C'est aujourd'hui que la partie recette du texte est soumise au vote de l'Assemblée nationale. Et aussi parce que tard hier soir, le gouvernement a réussi à convaincre les députés d'approuver une hausse ciblée de la CSG sur le capital. Les revenus issus des contrats d'assurance vie, des PEL ou des revenus fonciers seront exemptés. Une sorte de compromis pour rallier un maximum de parlementaires, Lise Roseveille.
Une hausse de la CSG qui ne concerne plus les petits épargnants et une contribution rabotée à 1,5 milliard d'euros, bien loin des 2,8 milliards espérés par la gauche. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, au banc toute la soirée, vante un amendement de compromis.
On est dans un moment qui est assez fondamental, délicat. Chacun doit aussi avancer et faire un pas pour tenter de faire aboutir le débat.
Regard tourné vers Horizon et les Républicains qui menaçaient de faire tout capoter. Ils s'abstiennent finalement en grande majorité. Le député LR Philippe Juvin est satisfait.
Le Premier ministre a entendu, en particulier la droite républicaine, mais pas seulement Horizon et d'autres, qui considéraient que... On ne peut pas donner tout aux socialistes qui demandent tous les jours une taxe nouvelle. Ça, c'est pas possible.
Pour lui faire avaler la pilule, le PS reçoit quelques cadeaux en avance. Le gouvernement renonce notamment au doublement des franchises médicales. Le socialiste Jérôme Guedj assume le compromis.
C'est pas l'idéal, c'est pas mon budget. Mais au moment où on fait un compromis, moi je prends mes responsabilités. Peut-être que ça fera date dans l'histoire parlementaire de se dire on arrive à faire quelque chose de cette nature.
Les Insoumis et le Rassemblement National, eux, crient aux magouilles. Les tractations en coulisses ont duré toute la soirée. La méthode Lecornu va-t-elle porter ses fruits jusqu'au bout? Ce n'est pas fait, sourit son entourage. Mais le plus gros... Et derrière nous.
La totalité du projet de budget de la Sécurité sociale, recettes et dépenses, doit être soumise au vote des députés mardi prochain, le 9 décembre. Emmanuel Macron lui achève sa visite en Chine. Le président français a quitté Pékin pour Chengdu, dans le Sichuan. Chengdu, quatrième ville du pays, avec 21 millions d'habitants, considérée comme l'une des plus ouvertes culturellement et socialement. Le chef de l'État aura un échange avec des étudiants. Il rencontrera aussi les frères Lebrun, qui sont sur place pour la Coupe du Monde de tennis de table par équipe. Les États-Unis ont mené cette nuit une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau utilisé par des narcotrafiquants. C'est ce qu'affirme l'armée américaine. 4 hommes qui étaient à bord ont été tués. De plus en plus de voix s'élèvent contre ces opérations débutées en septembre. Leur légalité est remise en question par de nombreux experts. Et en raison du déploiement militaire américain dans le Pacifique, mais aussi dans les Caraïbes, le Venezuela est quasiment privé de liaison aérienne avec l'extérieur. Plusieurs compagnies étrangères ont encore décidé hier soir de suspendre leurs vols pour des raisons de sécurité. L'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande, la Slovénie, au moins 4 pays boycottent l'Eurovision cette année. D'autres pourraient suivre. Décision qui fait suite à l'autorisation donnée à Israël de concourir sur fond de critiques de la guerre à Gaza. Les membres de l'Union européenne de radio-télévision ont donné leur feu vert. Ils ont modifié le règlement pour que tous les pays qui le souhaitent puissent participer. L'Eurovision a lieu en mai prochain à Vienne, en Autriche.
En France, plus précisément. précisément à Castres, le quartier sensible de Lameillet au sud de la ville est sous surveillance.
Depuis mercredi soir, depuis que des policiers ont été visés par des tirs, 3 agents ont été touchés sans gravité. Les auteurs de la fusillade ont pris la fuite. Une enquête est en cours pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le récit de Bénédicte Dupont.
Oui, 2 véhicules, un de la BAC, l'autre de police secours, sont visés par des tirs depuis une voiture située à une trentaine de mètres d'eux. 3 à 5 tirs. Sur 7 fonctionnaires présents, 3 sont touchés à la tête et au torse par des projectiles. Mais finalement, seule une policière présente une plaie apparente au crâne sans gravité. Ils sont surtout évidemment très choqués. Après les tirs, la voiture des malfaiteurs a pris la fuite. Dans la précipitation, elle a même percuté un autre véhicule garé à côté. La situation est d'autant plus tendue en ce moment dans ce quartier de Castres que depuis lundi, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, visiblement filmée à Lameillet. On y voit un groupe de personnes armées tirant en l'air. Une autre enquête est ouverte pour ces violences avec armes. La police ne sait pas encore si la fusillade visant des policiers et ces tirs en l'air ont un lien et concernent les mêmes personnes.
Bénédicte Dupont d'ici Occitanie. Le préfet du Tarn s'est rendu sur place hier soir pour réaffirmer la fermeté de l'État sur l'usage des armes. Un professeur condamné à 4 ans de prison à Rouen, dont un an avec sursis, et une obligation de soins. La justice l'a reconnu coupable de relations sexuelles avec 3 de ses élèves mineurs entre 2019 et 2025. L'homme d'une cinquantaine d'années a été maintenu en détention à l'issue de l'audience.
Coup d'envoi de la 39e édition du Téléthon ce soir.
Et comme chaque année, la France est appelée à se mobiliser pour financer la recherche sur les maladies génétiques rares, accompagner les malades et leurs familles. Depuis 1987, il existe plus de 30 médicaments de thérapie génique. 13 essais cliniques sont en cours, il y a de nets progrès, mais les dons sont toujours aussi importants, explique Laurence Thiénot-Herman, la présidente de l'AFM Téléthon.
C'est l'année des choix, alors c'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté on a des résultats extraordinaires, on a des candidats médicaments qui offrent une véritable promesse thérapeutique. Et à date, nous n'avons pas les moyens de soutenir tous les projets, pas seulement de recherche, mais des projets de développement, ces candidats médicaments dont les chercheurs nous disent on sait très exactement comment il faut avancer, comment on va avancer. Et c'est juste, entre guillemets, une question de moyens. Lorsqu'on passe à l'essai chez l'homme, on est de l'ordre de millions, voire de dizaines de millions d'euros par an. Et actuellement, nous soutenons plus de 40 essais sur 33 maladies. Et c'est autant de moyens qui nous sont nécessaires, sans oublier bien sûr toutes les maladies ultra rares qui attendent et qui ont aussi besoin de programmes de recherche.
Un propos recueilli par Alice Cachaner. Et pour faire un don, le 3637 par téléphone ou en ligne sur le site afm-téléthon.fr. Et puis on l'a appris hier soir, 140 millions d'euros de dons sont encore nécessaires pour la restauration complète de Notre-Dame de Paris, à la fois pour la sacristie, les 3 grandes roses du monument ou la nef notamment, selon l'établissement public chargé de rebâtir la cathédrale.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbière, il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Un temps toujours perturbé, Céline Dacosta.
Un ciel couvert avec de la pluie et de la neige en altitude sur les Pyrénées pour démarrer ce vendredi. Partout ailleurs, ce sera bien nuageux, sauf près de la Méditerranée où le soleil brillera largement avec un petit peu de vent. Et puis dans l'après-midi, une nouvelle perturbation pluvieuse arrivera par la Bretagne. Elle gagnera les Pays de la Loire avec un vent soutenu, 70 à 90 km à l'heure en rafale, jusqu'à 110 km à l'heure sur la Côte d'Opale. Une perturbation qui va se déplacer vers les régions de l'Est dans la soirée. Pour les températures, matinée froide avec des températures en baisse, quelques gelées sur le centre-est. En baisse également l'après-midi avec 6 à 9 degrés sur la moitié nord seulement, 10 à 15 pour la partie sud.
La météo de Céline Dacosta. 5h08 sur France Inter. À suivre, portrait d'un artiste qui puise l'inspiration dans l'encre de la mer. Ça sera dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout nous met dans une ambiance festive. À 5h45, il récolte du miel en Moselle pour en faire de délicieux pains d'épices. La chronique d'où ça sort nous racontera la colère agricole incarnée par la coordination rurale. Et puis Tanguy Pastureau maltraite l'info et nous explique le body count. Ça sera à 5h25. Mais d'abord, la musique avec une artiste en playlist France Inter, Marguerite, révélée par la Star Academy, nous emmène avec sa balade mélancolique et ses avions. C'est le titre.
On savait que c'était fini, on est quand même parti. dans des gens loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus joli? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide, jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences? Faudra refaire tous les murs, changer les photos, les peintures, faire une croix sur le futur. À deux, chez moi c'est pas bien rangé, dans le poulet se les clés, plus de traces sur l'oreiller. C'est mieux. Et puis faut que je te rende tes fringues, ce sera la dernière étreinte. Je ferme la porte et je me blinde. Adieu, la musique était jolie, mais le texte mal écrit, des fausses notes dans la partition. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grêle et les turbulences?
Les avions de Marguerite, extrait de son premier EP Grandir, sorti cette année. Elle sera en concert le 20 mars prochain, l'année prochaine, à Genève en Suisse et le 27 à Aix-en-Provence. 5h12 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lour.
Et ce matin, vous nous présentez un homme de mer qui a la lumière des couleurs dans les yeux.
En la personne de Ramine Marion. Ramine est un peintre marin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un peintre figuratif, mais vraiment marin. Vous, c'est vraiment la mer, les marines, etc. Combien d'expéditions au total pour l'ensemble de votre œuvre?
Alors, une dizaine d'expéditions qui ont donné lieu à expositions et éditions d'ouvrages, mais il y a bien d'autres voyages qui n'étaient pas complets et qui ne permettaient pas de rédiger un livre ou faire une grande exposition, mais ça a donné lieu à une toile ou deux.
Quand vous parlez d'expédition, ça dure longtemps.
Alors, entre un mois et trois mois. Ma plus longue mission avec les bateaux, c'est trois mois dans le Pacifique Est, entre Tahiti, les Marquises, Clipperton, l'atoll de Clipperton, ah. Costa Rica, Guatemala.
Mais vous partez aussi dans les terres australes.
C'est ça, dans les terres australes, Kerguelen, Crozet, Amsterdam, au départ de la Réunion.
Quand on voit vos œuvres, je l'ai dit, assez figuratif, bien sûr il y a des bateaux, bien sûr il y a des phares, bien sûr il y a des hommes, mais on voit votre passion pour la mer.
Oui, la passion et la couleur, parce que la mer et la
couleur...
C'est
très coloré, de toute
façon. C'est ça. Et moi, c'est l'angle de la couleur qui me sert de médium de captation de l'attention des gens. Donc, soit les enfants, soit les grands-enfants. Je souhaite pas un langage très sérieux. Je veux parler de la planète entière, les animaux, les humains, par l'angle de figuration narrative et joyeuse.
Quelques-uns de vos ouvrages d'Armor et d'Islande, de la Bretagne à la Norvège, à bord de la Goélette de la Belle Poule, les éphémérides atlantiques. Alors vous, vous embarquez sur des bateaux de la Marine nationale ou de la Marine marchande?
Oui, alors la Marine nationale, ce sont les commandants qui ont connu mon travail, ma façon d'accumuler les informations et mon implication à bord, qui m'invitent pour le rayonnement de leur mission. J'ai commencé avec les voiliers de la Marine, j'ai quatre grandes navigations avec la Belle Poule et l'Étoile.
Oui.
Et ensuite on m'a dit, mais monsieur veux, c'est pas très sérieux. Là, il faut faire des bateaux gris. Donc, j'ai fait la Touche-Tréville,
les frégates.
La Thétis, la Place.
Et marine marchande et marine scientifique aussi. Vous êtes parti sur l'Astrolabe. L'Astrolabe qui nous mène dans les terres australes et antarctiques.
Absolument. Et qui est géré par la Marine nationale toujours. Mais c'est le seul bateau rouge de la marine.
Exactement. Absolument. Bateau scientifique.
Ouais. Et puis, les bateaux de pêche. Moi, j'ai fait une thèse sur la pêche. Donc, j'ai beaucoup embarqué sur les petits bateaux de pêche.
Oui, parce qu'en plus, vous êtes un ethnologue marin.
Voilà. Je rencontre les gens, je raconte ce que je vois et raconter ce que les marins voient.
Vous êtes un passionné de la voile, des trois mâts, des goélettes.
Absolument. D'ailleurs, le voilier, le français, m'a déclaré comme peintre officiel du français.
Du français, c'est très bien, le français qui était dernièrement à La Rochelle. Et en plus des phares, vous aimez les gens de mer.
Je vis à Brest et je suis marié à une fille de marin. Comment ne pas aimer ce qu'il raconte et puis comment ne pas être incité pour pas aller plus loin et aller soi-même regarder les choses.
Ramine, la question, qu'est-ce que c'est la mer pour vous ?
La mer, c'est la lumière qu'on a dans les yeux. C'est ce qu'on voit dans les yeux d'un marin breton. Mais je dirais que la première matière première, c'est ni le paysage, ni l'objet phare ou bateau, c'est l'histoire maritime. C'est ça qui m'intéresse.
Qu'en plus, il faut le dire, Ramine, vous allez chercher de vieilles cartes marines pour vos œuvres.
Absolument, puisque aujourd'hui, les cartes sont imprimées avec des traceurs et les encres ne tiendront pas longtemps, alors qu'autrefois, on faisait des cartes pour durer. Et donc, cela m'intéresse pour raconter des histoires et après les transformer comme des objets d'art.
Merci à vous, Ramine. On va vous dire bon vent parce que vous allez repartir. Si on veut vous découvrir, un site internet ramine.com. Merci. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José Emmanuel Lamarque. Vos chroniques sont désormais à retrouver en livre, un très beau livre, publié aux éditions Grunt France Inter et disponible en librairie. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
À la une de la presse ce matin, encore un peu partout le budget en discussion à l'Assemblée. Sécu, stop ou encore pour le cornu, tonnent les échos qui plantent le décor. Sans majorité, le gouvernement affronte un vote crucial sur la partie recette du budget de la Sécu. L'ancien Premier ministre Michel Barnier, justement tombé sur ce sujet, confie au journal qu'il ne votera pas ce texte et la mise en garde du Premier ministre aux députés sur le déficit de la Sécu met sous haute tension l'Assemblée. Dans un coin de sa une, l'opinion évoque elle aussi le déficit de la Sécu et le coup de pression mis sur les députés quand le Parisien promet de raconter comment Sébastien Lecornu tente de sauver son budget. Mais en une de ce même quotidien, c'est le baccalauréat qui occupe la plus grande place. Grande photo d'une candidate qui planche, le titre est explicite. Orthographe, mention, tour de vis sur le bac. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, explique en effet en page intérieure comment il veut revaloriser l'examen et mettre la priorité sur l'expression écrite. L'école fait aussi la une de La Croix, mais elle est religieuse. L'école catholique, sous pression, c'est le titre. Le quotidien fait état d'intense contrôle sur les établissements privés sous contrat. Les journaux ont aussi les yeux tournés vers l'international. Concurrence chinoise, on n'a encore rien vu, prévient l'opinion. Alors que le président Macron est à Pékin. Le sort de Christophe Glaise, journaliste de SoFoot détenu en Algérie, ravive les tensions avec Alger, affirme de son côté Le Figaro. L'humanité, elle, s'inquiète de l'hydre djihadiste qui ressurgit au Sahel. Et puis, rien à voir, Libération se penche sur le conflit fratricide au sein de la famille Arnault. Succession saison 2, carrément, c'est le titre. Quand le publicitaire Maurice Lévy et Arthur Sadoun sourient en une des écomags qui ont dirigé Publicis. En une du Parisien Week-end, c'est un ours polaire qui affiche lui sa bouille. Le magazine s'est rendu au royaume de l'ours blanc, c'est le titre. Le village de Churchill au Canada qui attire chaque année des centaines d'ours et des milliers de touristes. La vie des grands fauves. D'où ça sort ? Question posée chaque jour par Mathieu Noël et son équipe à propos d'un thème choisi. Hier, c'était la crise agricole et la coordination rurale, deuxième syndicat de France dans le secteur. Organisation radicale et contestataire qui se nourrit de la colère du monde rural. Alors la coordination rurale, Cyril Lacarrière, d'où ça sort ?
Imaginez un monde où les agriculteurs doivent se lever tôt, mais aussi se battre contre Paris, contre l'Union européenne, contre l'opinion publique, contre des importations incontrôlables, et puis qui se battent entre eux aussi. Dans cet univers impitoyable des syndicats agricoles, c'est une sorte de Game of Thrones, mais avec des bottes et des bétaillères. C'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que tout commence, en 1946, création de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Immédiatement, elle devient hégémonique dans le secteur, de quoi lui valoir le surnom de ministère de l'agriculture bis. Pendant des décennies, c'est avec elle que les politiques transforment la France en puissance agricole moderne. Et puis Bruxelles prend le pouvoir, l'Europe encadre la profession d'agriculteur et leurs activités. Pour de nombreux exploitants, le sentiment qui prévaut, c'est que désormais, le destin se décide à Bruxelles et que les grands syndicats comme la FNSEA se sont embourgeoisés. Et c'est là qu'apparaît, qu'arrive la coordination rurale. Elle voit le jour en 1991, notamment en opposition à la FNSEA, jugée trop proche du pouvoir. Opportuniste, la coordination se présente comme le syndicat de ceux qu'on n'écoute jamais. Elle est plus radicale, plus protestataire et plus autonomiste aussi. Dans les années 2000, c'est elle qui incarne la colère, parfois explosive, du monde agricole qui se sent oublié et même méprisé. Et puis, il y a la Confédération paysanne aussi, née en 1987, celle de José Bové, une organisation proche des écologistes et qui défend une agriculture paysanne, plus locale, plus durable et moins productiviste. Alors d'où ça sort la coordination rurale et de tous ces mouvements? Eh bien de là, et de cette colère qui monte.
C'était Cyril Lacarrière dans Zoom Zoom Zen, l'émission de Mathieu Noël. Il revient à 16h sur France Inter cet après-midi. Il sera question du macronisme. 5h20 sur France Inter. Dans un instant, l'humour de Tanguy Pastureau. Mais tout de suite, un groupe de rock londonien, comme son nom ne l'indique pas, Bar Italia Fundraiser. Fundraiser de Bar Italia qui seront en concert à l'Élysée-Montmartre à Paris le 26 février prochain et à Bordeaux le 28.
France Inter.
À 5h24, l'humour de Tanguy Pastureau qui maltraite l'info et tente de comprendre le body count.
Je suis allé sur YouTube récemment, j'y vais rarement, je préfère regarder Carole Gessler sur la 3 parce que ça permet de réaliser qu'on vieillit et de mieux appréhender la mort. Ce qui fait que YouTube me connaît peu. D'ailleurs, on se vous voit. Je tape « Voudriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Tube, me passer une vidéo de correspondant ?» Mais comme j'en vois peu, l'algorithme ne me connaît pas. Si bien qu'il m'a mis récemment une vidéo intitulée « Depuis quand on shame les meufs à cause de leur body count
wow. ?»
En stress, j'appelle Emma Beaujean, la seule jeune de France Inter. Elle décroche. Moi, « Bonjour Emma, j'ai un problème. » Elle, « Ça va la team ?» Moi, en fait, j'aimerais savoir... Elle, ok, boring. Elle raccroche. Qui appelait ? Oldelaf. Tiens, il a 16 enfants issus d'union d'un soir avec des groupies qui adorent les mecs portant des t-shirts trop justes. Moi, bonjour Oldelaf, j'ai un souci. Lui, ok, je te fais une chanson. Moi, non ! Et puis je lui demande que veut dire on shame les meufs à cause de leur body count. Il me répond, je te passe ma fille de 15 ans. Un silence se fait, puis j'entends Oldelaf hurler, Janine, viens donc là, sinon je te fais un jeu de mots. Une voix féminine se fait entendre, non, pas un jeu de mots. Puis en chuchotant, Janine me dit, venez me chercher, j'en peux plus. Père m'enferme dans ma chambre avec des recueils de chroniques de Stéphane de Grotte. Ok, mais dis-moi ce que veut dire on shame les meufs à cause de leur body count. Elle dit, mais pourquoi est-ce que vous, vous chuchotez? Je pense, c'est vrai, je suis con. Vous avez remarqué, quand quelqu'un chuchote, on chuchote aussi. On dirait un début de sketch de Gad Elmaleh. Et là, Janine m'explique, on shame signifie on met la honte, les meufs ce sont les jeunes dames, et le body count, le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu. Il y a 25 ans, tout le monde humiliait Jean-Claude Van Damme parce qu'il mélangeait anglais et français. Résultat, maintenant, il y a la moitié des connards de ce pays qui font pareil. Le body count, alors c'est pas si nouveau. Quand j'étais au lycée, à l'époque des huttes en bois, il y avait déjà des types pour faire la liste des meufs. On disait alors les nanas, avec qui ils étaient sortis. Moi, j'étais très timide. Ma liste, ça a longtemps été une copie double à petits carreaux vierges. Elle méritait bien son nom. Perforé, parce que le désir vous fait faire des trucs insensés parfois. Bref, si quelqu'un vous demande votre body count, si vous êtes un homme, vous pouvez amplifier la réalité. Vous dites 720. Et tout le monde fera « Waouh, le champion, c'est trop un guerrier de l'amour, on dirait Attila, mais avec du love. » Alors que si vous êtes une femme, au-delà de 4, sur les réseaux, on vous descend en flèche. Le grand classique sexiste, totalement pas arithmétique d'ailleurs. Ou alors les gars ne sortent qu'entre eux. Dieu est contre, vous dirait le pape, dont le body count est très faible. Il y a des TikTokers masculinistes aujourd'hui, suivis par des millions de jeunes, hein, tout va bien. Il y en a un qui dit dans une vidéo, j'ai regardé, « La valeur d'une femme diminue selon le nombre de partenaires qu'elle a eu auparavant. » Et en commentaire en dessous, on lit « Un téléphone reconditionné est toujours moins cher. » C'est-à-dire qu'on compare les femmes à des smartphones, ce qui n'a rien à voir. Je veux dire, approchez-vous de votre femme et dites « Dis Siri, dis-moi le temps qu'il fait. » Elle va juste répondre « Regarde par la fenêtre, connard. » Tous ces gens dont je parle ne sont pas des nonagénaires qui ont encore l'arrivée de la mini-jupe en travers de la gorge. Tous ont moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une belle génération de néandertaliens, c'est affligeant. Et puis ça veut dire quoi cette histoire de body count? Quelle importance? Celui de Daniel, c'est 2. Il est sorti avec Manny Grégoire et Madame Soleil. Doit-on le juger là-dessus?
Non, s'il vous plaît.
Et alors Brigitte Lahaie, l'ancienne icône du X, aujourd'hui animatrice sur Sud Radio, a accordé une interview au journal du Hard de Canal+. Ça existe toujours. Hein, Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne, a beau être catholique, c'est un sacré coquinou. Et Brigitte Lahaie a un discours libérateur pour les femmes. Quand on lui demande son body count, elle répond « On est plus proche de 1000 que de 1 ». Si les masculinistes de 19 ans entendent ça, ils vont en avaler leur pomme d'Adam hypertrophiée. Et elle ajoute, et c'est ça le message qu'il faut entendre, le chiffre n'a aucune importance, c'est la qualité des rapports qui compte, pas la quantité. Ce qui est vrai. Brigitte Lahaie conclut son entretien au journal du Hard par cette phrase « Si le mec refuse les doigts dans les fesses, eh ben avec moi ça peut s'arranger. J'ai eu l'image. » Et je me suis dit qu'il y a peu de gens à Sud Radio à pouvoir dire ça. Patrick Roger, Jacques Pessis, André Bercoff, parlent assez peu de doigts dans les fesses. Janine, la fille d'Oldelaf, m'a dit « Père a un body count de 16, mais à chaque fois, ça a engendré la vie. » Soyons plus, les amis, soyons plus qu'un chiffre.
Tanguy Pastureau dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour du lundi au vendredi à partir de 12h10. Dans une poignée de secondes, le journal.
Ce vendredi sur France Inter, enquête sur les affaires chinoises de Dominique de Villepin.
18h15, Benoît Colomba.
Il se présente comme le dernier gaulliste et sera peut-être candidat à la prochaine présidentielle. Nous allons vous dévoiler les multiples activités en Chine, parfois rémunérées, de l'ancien Premier ministre.
Si vous n'êtes pas bien avec le pouvoir central, vous ne faites pas d'affaires en Chine.
Révélation, le magazine d'investigation de France Inter.
C'est ce vendredi, après le journal de 18h.
5h29 sur France Inter, et voici Ali Badou.
Et vous aussi.
Bonjour Marion Lourd.
Bonjour Annie, ça va et vous?
Magnifiquement.
Quel est notre programme aujourd'hui?
Ce vendredi 5 décembre à 6h20, il sera question du Téléthon. Comment la recherche progresse-t-elle? Votre invitée Marion sera Laurence Thiénot-Herman, qui est présidente de l'Association française contre les myopathies. La mobilisation commence aujourd'hui. Quant à 7h45, dans le débat éco de Thomas Porcher et Dominique Seux, il sera question des relations entre la Chine et l'Europe. Comment rééquilibrer, et est-ce possible d'ailleurs, comment rééquilibrer les échanges commerciaux entre ces deux espaces économiques considérables? Et à 8h20, le grand entretien, plateau spécial Syrie, un an après la chute du régime de Bachar el-Assad et la fuite du dictateur. Plusieurs invités dans le studio 511 de la Maison de la Radio pour faire le point sur la situation de ce pays où la situation humanitaire, politique et économique est toujours extrêmement précaire.
À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Anne-Sophie Belbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les règles du baccalauréat vont se durcir.
Il n'y aura plus de repêchage pour les élèves qui ont moins de 8 sur 20. L'annonce avait été faite fin août, mais cette fois, ça y est, ça devient concret. Un décret publié aujourd'hui revoit le système de points délivré par les jurys. Le ministère de l'Éducation dit vouloir renforcer l'exigence et la cohérence de l'examen. Laurélie Carive.
En 2025, un peu moins de 2% des élèves ont obtenu leur bac général grâce à ces points, parce qu'ils étaient trop justes et qu'après avoir examiné leur dossier, le jury a choisi de les repêcher. Et c'est grâce à ce même coup de pouce que 6% des candidats ont décroché une mention ou bien une mention plus élevée. Mais dès le mois de juin, les règles vont changer. Plus aucun candidat ne sera repêché en dessous de 8 sur 20. Pour les mentions, le coup de pouce sera plafonné à un demi-point sur la moyenne générale. La mesure avait déjà été annoncée par la ministre Elisabeth Borne cet été. Les arguments de son successeur Édouard Geffray sont les mêmes. Redonner de la valeur, de la crédibilité au bac, à l'heure où le taux de réussite est de 96% pour la voie générale. Le SNES, syndicat majoritaire dans le secondaire, y voit lui un coup de communication. Il estime que le principal problème du baccalauréat aujourd'hui reste le contrôle continu, vecteur d'inégalité entre les élèves.
L'Aurélie Carive, et hier l'État a été condamné pour l'absence prolongée d'un professeur de français dans la métropole lilloise. 1 000 000 d'euros sera versé à une famille dont la fille a été privée d'une partie de ses cours en 2022-2023. Elle était scolarisée en classe de 6e au collège Gambetta de Lisle-et-Lanois.
La partie recette du projet de budget de la Sécurité sociale soumise au vote de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Hier soir, le gouvernement a réussi à convaincre les députés d'approuver une augmentation de la CSG sur les revenus du capital, une hausse moins importante que celle demandée initialement par les socialistes. La nouvelle version exclut entre autres les PEL, les assurances-vie, les revenus fonciers et les plus-values immobilières. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a elle par ailleurs déclaré que, faute de consensus, elle renonçait à doubler les franchises médicales. Et pendant que le gouvernement continue sa course d'obstacles, certains candidats possibles pour 2027 jouent la contre-programmation pour mieux se démarquer, ne surtout pas s'abîmer dans ces débats budgétaires houleux. C'est le cas de Bruno Retailleau, l'ex-ministre de l'Intérieur, parti du gouvernement il y a 2 mois, s'est lancé dans un Tour de France pour tenter de se refaire. Nouvelle étape hier dans les Pyrénées-Atlantiques, vous l'avez suivi, Julien Nenni. Sans l'assumer encore totalement, le patron des LR profite de ses déplacements pour peaufiner peu à peu son futur programme présidentiel.
Qu'il semble loin déjà, le temps des cortèges ministériels, des voitures à gyrophares et des sondages d'intention de vote à 2 chiffres.
Il se voit bien.
Alors l'opération remontada de Bruno Retailleau passe par la visite des caves de Jurançon.
Moi j'ai commencé par aimer le vin rouge et maintenant je préfère pratiquement le vin blanc.
Entre deux gorgées, le président des Républicains vient surtout chercher des idées pour la suite, venues du terrain, comme avec ce directeur de la coopérative.
À chaque fois qu'on a dit on simplifie, la simplification elle n'a pas été prise depuis l'usager. Elle a été prise depuis la personne qui est derrière son bureau.
Et du coup, donc, ça a été une complexification.
Et bien ça complexifie pour celui qui est au bout. Voilà. Et nous, ici, on pédale.
Studieux, Bruno Retailleau prend note.
Ça va alimenter notre projet. et forcément un programme présidentiel. Ensuite, on
le vôtre aussi.
On verra qui va porter, mais je voyais venir.
Le sénateur est prudent, mais tout indique qu'il vise bien l'Élysée. 50 groupes de travail pour affiner le programme et même une déclaration de candidature envisagée juste après les municipales. Démonstration le soir devant 300 militants réunis à Pau.
Maintenant, je trace ma route. Mon sujet, c'est plus tel ou tel, à droite, à gauche, peu importe, je m'en fiche. Le sujet, c'est le peuple français, c'est tout. Et j'avance.
Avancer pour ne pas ressasser sa sortie ratée du gouvernement et tenter de s'imposer comme le patron de la droite en 2027.
À l'étranger, Israël attend la dépouille de son dernier otage à Gaza, un policier tué le jour de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Et c'est ce que prévoyait la trêve, la remise de tous les otages. La deuxième étape du cessez-le-feu, qui n'a pas encore été approuvée, prévoit le désarmement du mouvement islamiste palestinien, la mise en place d'une autorité de transition, ainsi que le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Et puis c'est en fin d'après-midi qu'aura lieu le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde de football 2026 avec 48 pays participants, ce qui veut dire nouveau format, 12 groupes à composer. Le tirage au sort se déroule au Kennedy Center à Washington. La compétition est co-organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça débute le 11 juin.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonne journée Anne-Sophie. Merci. Restez bien à l'abri. La pluie ne nous a pas quittés longtemps, mais elle revient par l'ouest aujourd'hui. Temps déjà perturbé ce matin sur le Pays Basque et les Pyrénées, avec même de la neige au-dessus de 1200 mètres, car la matinée est fraîche. Partout ailleurs, beaucoup de grisailles matinales, avant l'arrivée de la pluie et du vent par la Bretagne et la Vendée. La perturbation gagne vers l'est, du Massif central à l'Alsace-Lorraine. C'est gris ce matin, avec quelques flocons à partir de 700 mètres. Seul un grand quart sud-est bénéficie ce matin de larges éclaircies, avant qu'un voile gris l'emporte en journée. Côté thermomètre, comptez moins 4 à 8 degrés ce matin, 5 à 16 cet après-midi, ça sera douci, 5 à Lille, 6 à Paris, 7 à Strasbourg et Limoges, 8 à Clermont-Ferrand et Nancy, 9 à Rennes, 10 à Nantes, 12 à Marseille et Bordeaux, 14 à Brest, Perpignan et Biarritz, 15 à Nice et 16 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et on va onduler ce matin dans la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous parlez de la dame Meryl.
Oui, la chanteuse martiniquaise dont je vous ai déjà loué les mérites ici. Elle était hier soir au micro de Mehdi Maizi à La Régulière pour parler de son nouvel album La Dame, donc, qui vient de sortir avec plein d'invités et non des moindres. Écoutez par exemple et suivez Marion les instructions de Meryl. Qui va là?
Every girl, just follow the instructions. Mettez la main en tête, et vous voyez Bouddha derrière. Oui, mais la bête fait où? Tout dit, moi, qu'on débouté. Fais la bête fait pap, 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 pap. Tout dit, moi, qu'on bouté. Fais la bête fait pap, 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 pap. Tout dit, moi, qu'on bouté. Sony en shot ou sa pape plate. En monte en l'or qu'on raf 4. Bonne day en couvier ti macac. En femme qui l'a pas ti mac. Boss lady ka fait chez yo bat bat. Pas femme pour ti bonbon plat. Dépêche au fait la bête fait pap pap. Descende faire la bête fait pap.
Pap pap. Est-ce que je vous traduis Marion de bon matin?
Si ça reste décent.
Ah ouais, mais oui, mais il s'agit de mettre ses mains par terre et puis le derrière bien en l'air. Et ça fait pop pop. Et si Meryl parle de boss lady, c'est parce que Théodora est là dans son nouvel album de Meryl, La Dame, qui est sortie donc vendredi dernier. Théodora par deux fois même, c'est rare, elle fait deux featuring. Cindy Elismar alias Meryl vient d'avoir 30 ans et tout lui sourit enfin. Je vous en parlais déjà aux aurores à l'aube quand sortait son morceau Coca-Cola Mentos. Meryl vient d'annoncer en toute simplicité qu'après le Zénith l'année dernière, elle jouera à l'Accor Arena de Paris le 27 octobre 2026. Bah figurez-vous que c'est déjà complet.
Ah oui.
Il y a du R&B, du rap, du chata aussi, beaucoup de sons différents chez cette native, du lamentin.
Alors le chata, pour rappel, c'est ce dancehall très explicite né en Martinique. Effectivement, on a entendu que c'était explicite et qui envahit les soirées depuis quelques années.
Voilà, et sans oublier le bouillon, hein, ce rythme créole, un peu plus rapide qu'on entendait d'ailleurs dans le BBL de Théodora. Bouillon au parfum de carnaval que l'on retrouve ici dans ce duo avec un des champions venus de Guadeloupe, Pimpin OSP, vite fait.
VGM Products Fais confiance, pas bail au chance, si ça pète nous ni ça la fait pas chier la gecko, c'est qui j'te la en pas même ça combien dans la grand bain et puis pimpé nous vivait là en mode quinquin, mettez y'a quatre pattes qu'on mis loup pour y voyager qu'on t'intin. Montez yo ça vite fait, 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 montez yo ça vite fait.
fait, nous dit Meryl dans ce nouvel album, La Dame.
Meryl, tubeuse à gages, comme on pouvait le lire un peu partout.
Mais oui, ce surnom vient de la période où Meryl écrivait, proposait des mélodies pour les autres quand elle était, comme on dit, top-lineuse. Hein. Meryl est créditée, vous savez, sur plusieurs morceaux de SCH, de Shy ou encore Niska. Mais ça, bah ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est elle qui fait venir les autres dans ses chansons. On croise dans ce nouvel album d'Anthology, R2 ou encore Eva qui intervient dans Coco Chanel, un morceau qui circule beaucoup, est-ce que je vois sur TikTok. C'est ça le business, comme le morceau qu'on va entendre, plus posé, plus chanté et qui devrait revenir souvent sur Inter. Meryl, business.
Chop, elle fait chop business, à tout moment où on palaçait. Chop à go tout tout tout, c'est mauvais temps. Nous hop donc yo les piges si la détente. C'est l'année plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça ni en tête. Mais j'en connais donc à fait papa. C'est nègre là pas aimé ça. 450YFZ. T'en connais ici à CNF7. Faut manger si yo chaud en y les contacts. Faut pas yo fait être préchappé. Maman me touche comme si je suis plus là. Elle me sort dans ses bras, elle est au plus bas. Avant il m'en faut envie fait Kaila. Pour moi combien fois yo lui met la étale. La ria pas qu'à jouer moi des zaza. Mais des jet qui baillent pour tout le monde baille là. Sauf la nation où ça veut nous ni ça là. Je vais être quelque cartel est à Gaza. Comme c'est phony chante la 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 la. Mon fouette pouti la en gla 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 gla. Pas moi en ruina ou en dompé. Diamant de la saison et qui est donne me. Chop à l'effet chop business. À tout moment où on palaçait. Chop à go tout 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 c'est mauvais temps. Nous hop donc yo les piges si la détente. C'est l'année plus soleil que les tempêtes. On veut réaliser tout ça ni en tête. Mais j'en connais donc à fait papa. Ces nègres là pas aimé ça. Chop à l'effet chop business. 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 Oh na 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 na. Je serai moi à l'envie et cauchemar. Faut moi soleil qu'on enchaîne. Mais on est tchède donc on s'en sait qu'on sort. Maman lève nous allons l'église. Mais t'es à méchant. Alors bien sûr nous garder les passes. Mais pas été en fond de cœur ici à passe. Et chop pas le fait chop business. À tout moment où on palaçait. Chop pas qu'on tout 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 c'est mon fétain. Chop pas qu'on tout 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 c'est mon fétain. Et chop pas le fait chop business. À tout moment où on palaçait. Chop pas qu'on tout 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 c'est mon fétain. Chop pas qu'on tout 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 c'est mon fétain.
Business et Meryl à retrouver. C'est ça le business, à retrouver dans la playlist de France Inter. Et vous Mathieu, on vous retrouve ce soir à 21h.
Mais oui, pour plein de nouveautés, je vous parlerai du nouveau Vald, le rappeur qui reprend même Georges Brassens, figurez-vous. Et aussi de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers qui vient de sortir un morceau de jazz qui est génial. Et je remets le son. C'est bon, à ce soir.
À ce soir. 5h42 sur France Inter, le grand reportage est une enquête ce matin par la cellule investigation de Radio France. Élodie Guéguin et Géraldine Allot ont examiné pendant plusieurs mois les activités de conseil de Dominique de Villepin, aspirant candidat à la présidentielle 2027. L'ex-premier ministre est souvent soupçonné de liens avec le Qatar, mais Élodie, vous avez découvert, vous, que c'est en Chine que Dominique de Villepin s'est rapproché des autorités.
Oui, la Chine où il est extrêmement populaire, où son discours à la tribune de l'ONU contre la guerre en Irak est resté dans les mémoires. Depuis plus de 15 ans, Dominique de Villepin y est invité partout, dans les forums, les foires expo, même les salons nautiques. Il prononce des discours, donne des conférences, lui affirme que 90% de ses activités sont bénévoles. Nous avons découvert que deux conférences lui ont pourtant rapporté 900 000 yuan, soit 94 000 euros en 2008. Et surtout, ce sont les autorités qui ont réglé cette facture, c'est écrit noir sur blanc dans un document comptable de l'organisateur.
Les sommets sont pris en charge par les municipalités de Chengdu et de Zhengzhou. Nous prévoyons de verser 900 000 yuan à M. Dominique de Villepin. Cette fois-ci, l'événement est sponsorisé par le gouvernement, qui a des restrictions budgétaires pour l'organisation de conférences.
Dominique de Villepin nous précise qu'il a été payé par une association privée financée par les provinces. En marge de toutes ces conférences, l'ancien Premier ministre sillonne le pays, boit de l'alcool de riz avec les dirigeants du Parti communiste et pose pour la photo un bébé panda sur les genoux. Christian Queneau, général 5 étoiles à la retraite, est l'homme qui l'a introduit dans le monde des affaires en Chine.
Il voulait exister et il voulait se rendre, sinon indispensable, mais précieux auprès du gouvernement central. Si vous n'êtes pas bien avec le pouvoir central, ben vous ne faites pas d'affaires en Chine.
Les autorités chinoises proposent par ailleurs à Dominique de Villepin de prendre la présidence d'associations dans des domaines qui peuvent paraître insolites, comme le tourisme de montagne. Il conseille aussi des entreprises, un fonds d'investissement privé ou une agence de notation chinoise. Et cela n'est pas sans poser question, selon l'élu LR Pascal Alizard, vice-président de la Commission des affaires étrangères du Sénat.
Les entreprises chinoises, elles sont à la main du gouvernement chinois. Donc il y a forcément une dimension politique. Soit on ne la voit pas, soit on ne veut pas la voir, mais elle est forcément là parce que le système politique et économique chinois ne dissocie pas les deux.
Et ça, il le dit, ça signifie que Dominique de Villepin est proche du régime autoritaire de Xi Jinping ? Alors, pour répondre à cette question, nous avons épluché la presse chinoise où il s'exprime régulièrement et l'on constate des prises de position très favorables au régime, comme en 2017 où il est invité à commenter en anglais la réélection de Xi Jinping à la tête du Parti communiste.
Nous avons besoin d'une Chine forte et c'est peut-être le message le plus important de ce 19e congrès du Parti. La Chine est de retour, et elle est de retour pour de bon.
Dans le même temps, Dominique de Villepin ne s'exprime jamais publiquement sur le sort des Ouïghours ou le traitement des Tibétains. Est-ce que ses affaires en Chine sont un frein à sa liberté de parole ? Lui assure que non. Il dit aussi que ses activités sur place sont marginales et qu'il a toujours conservé son indépendance.
Ce sont des activités en marge de mon activité. Elles ne représentent pas grand-chose sur le plan financier, mais j'ai soigneusement fait attention de me tenir à distance, justement, de tout ce qui pouvait constituer un réseau d'influence, un réseau d'intérêts. Vous ne trouverez jamais de grands responsables de milieux d'affaires, de grandes baronnies, qui constituent une ombre sur l'activité qui a été la mienne.
Dominique de Villepin affirme que la Chine ne représente que 8 à 10% aujourd'hui du chiffre d'affaires de sa société de conseil.
Les affaires chinoises de Dominique de Villepin. L'enquête complète d'Élodie Guéguin avec Géraldine Allot sera diffusée ce soir, 18h15, dans le magazine Révélation. Elle est déjà disponible sur franceinter.fr.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46 et c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, apiculteur au rucher des Ducs de Lorraine à Cirque-les-Bains en Moselle. Bonjour Étienne Carter.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Pourquoi êtes-vous déjà debout ?
Parce qu'on est en pleine période de marché de Noël. Et ce matin, on se lève un petit peu plus tôt pour préparer les commandes et surtout faire du pain d'épices.
Voilà, ce pain d'épices, alors que vous tirez en fait du miel produit par vos abeilles. Alors en fait, cette période du pain d'épices, c'est une période de forte activité parce qu'on vend beaucoup de pain d'épices sur les marchés de Noël, justement.
Oui, alors nous, on est producteurs en Moselle et c'est vrai que les Noëls du Grand Est et surtout les Noëls de Moselle sont assez connus. On a deux chalets sur la ville de Metz et un chalet au village du Père Noël à Cirque-les-Bains, qui est tout pile à la frontière de l'Allemagne et du Luxembourg. Et c'est vrai qu'on est connu depuis une dizaine d'années pour nos pains d'épices et c'est une grosse partie de notre activité au mois de décembre.
Et donc pendant que vous agitez, que vous allez faire les marchés, les abeilles, elles commencent à se reposer.
Ouais, elles sont sur une activité de quasi-repos actuellement. Elles sont en grappe autour de la reine et là elles sont en mode économie d'énergie. Elles vivent avec leurs ressources existantes et elles attendent les beaux jours l'année prochaine. Ouais.
Vous êtes apiculteur de père en fils et votre père produisait lui aussi du pain d'épices. En fait, c'est une histoire familiale.
C'est une histoire de famille, ouais. Mon père est apiculteur professionnel, il est en retraite depuis l'an dernier. Donc moi, je continue l'activité. Après, lui à l'époque faisait des petits pains d'épices. Et nous, maintenant, les pains d'épices sont 10 kilos.
10
et ils
kilos.
Sont vendus à la coupe. Ouais, 10
c'est
kilos
impressionnant.
Un pain. Ouais.
Et 10 kilos, les gens n'achètent pas des pains d'épices de 10 kilos.
Eh non, c'est vendu à la coupe. Donc on a trois sortes, ça permet aux gens de choisir leur taille de pain d'épices et puis de repartir avec le morceau et le goût qui leur plaise.
Et vous faites parce qu'il y a plusieurs goûts, hein. Il y en a trois sortes.
Ouais, on fait le grand classique, le nature.
Bien sûr.
Juste avec du miel. On fait avec des figues bio dedans. Et on fait aussi avec écorce d'orange confite et pépites de chocolat. Et les écorces d'orange sont aussi bio.
Bah ça fait saliver, surtout presque à l'heure du petit déjeuner. Vous faites encore les marchés, cela dit, avec votre père?
Oui, là je fais des pains d'épices. Et puis après, on prépare les commandes. Et à 9h, on va charger les chalets pour ouvrir à 11h. Le marché de Noël de Metz ouvre dès 11h.
Mais vous, au départ, vous n'étiez pas forcément parti pour ça, pour reprendre ce métier d'apiculteur et faire du pain d'épices?
Alors, je suis né au milieu des abeilles, mon père a toujours eu des ruches, et c'est vrai qu'après j'ai fait des études, donc je suis resté dans l'environnement, j'ai fait un master dans l'environnement, et c'est seulement à la fin de mon master que j'ai décidé de revenir sur l'exploitation apicole de mon père, et ensuite de passer moi aussi professionnel.
Ça vous a rattrapé en quelque sorte?
Ouais, bon, on se rend compte peut-être après ces études que faire un métier dans un bureau n'a pas forcément de sens. Et quand on est au contact des abeilles, mon but c'était de travailler dehors. Et je crois que le meilleur moyen pour être en extérieur et vivre avec la nature, avec les saisons, c'est d'être apiculteur. Ouais.
Alors en apiculture, il y a des bonnes et des mauvaises années, puisque j'imagine qu'il y a des années où les abeilles produisent plus ou moins.
Ouais.
Cette année, c'est une bonne année?
Cette année, on s'en sort bien, ouais. C'est une plutôt bonne année. On a connu une très mauvaise année l'an dernier, la pire, je pense, qui était faite en France.
Ah oui, pourquoi?
Donc, l'an dernier, il pleuvait tout le temps. On a eu beaucoup de pluie. Les abeilles ont fait un petit peu de miel, mais on leur a laissé pour pas qu'elles meurent de faim. Donc, on a eu une année compliquée l'an dernier. On est content de faire du miel cette année. Et puis, c'est un miel qui est français, donc c'est un miel que les gens demandent actuellement, voilà.
Oui. Et alors, du coup, c'est une bonne année, vous allez en profiter pour bien vendre. Je voudrais que vous en profitiez pour nous faire à nous un petit cadeau de Noël en nous donnant peut-être votre recette de pain d'épices, sans dévoiler peut-être tous les secrets.
Eh bien, la vraie recette, donc une recette traditionnelle, c'est assez, entre guillemets, assez simple, c'est du miel. Alors nous, on utilise des farines qui sont bio et locales, donc des farines de blé et de seigle, un mélange d'épices. On n'est pas sur le pain d'épices de Dijon, on est en Grand Est, on fait un pain d'épices avec un mélange d'épices, et ensuite un petit peu de bicarbonate pour que ça lève, et c'est tout.
Voilà,
il
n'y
a pas d'œuf, pas de lait, pas de matière grasse. C'est un vrai pain d'épices, c'est vraiment du miel, des farines et des épices.
Et donc c'est presque diététique en fait, donc c'est un beau cadeau en attendant les fêtes de fin d'année. Merci Étienne Carter, merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin sur France Inter. Je rappelle que vous êtes apiculteur en Moselle et qu'on peut vous trouver en ce moment sur le marché de Noël de Metz. Merci beaucoup.
Vous cherchez les ruchers des Ducs de Lorraine.
Merci, à bientôt.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
5h52, un classique qui fait du bien à présent avec ce titre que l'on connaît tous et qui nous sort du lit. Don't get me wrong, les Pretenders.
Don't Get Me Wrong des Pretenders, c'était en 1986.
France Inter. Le 5-6.
On va mettre une bougie sur la tartine ce matin. C'est un anniversaire d'un café philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lour.
Et au programme ce matin, elle fête ses 120 ans d'existence. Je parle de la laïcité. Elle les fêtera en tout cas mardi prochain, le 9 décembre.
Il faudra donc beaucoup de bougies. 120 ans d'existence, effectivement, depuis que la loi relative à la séparation des églises et de l'État fut adoptée par la Chambre des députés. Une loi communément appelée la loi de 1905 ou loi sur la laïcité. On notera d'ailleurs que le mot laïcité n'est apparu dans les textes qu'en 1946, lorsque la loi est entrée dans la Constitution.
Alors, pour cet anniversaire, qui sera célébré aussi sur France Inter mardi prochain, vous avez choisi d'inviter une philosophe et une juriste, et de leur adjoindre quelques élèves d'une classe de terminale, ainsi que leur prof de philo.
Oui, alors je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un dialogue entre la philosophe invitée, donc Catherine Kinsler, et Camélia, élève de terminale du lycée Missac et Méline Manouchian de Châtenay-Malabry. Rappelons, c'est important, tant que la loi sur la laïcité n'est pas une loi contre les religions.
Il faut que le droit de non-appartenance soit possible. On paraphrase Jo Beaumarchais, hein, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Sans la liberté de pouvoir dire, de pouvoir régresser, remonter vers la non-appartenance possible, il n'y a pas d'appartenance valide. Il faut que tout cela soit passé à l'épreuve de la réflexion de chacun. Et à ce moment-là, oui, vos appartenances, vous renouez avec elles, mais sur un autre plan. Et ça me semble très important, cette négativité, elle est fondamentale. Alors, les élèves de terminale comprennent ça très bien, mais c'est pas très facile à expliquer à des personnes beaucoup plus jeunes. Mais leur dire que, d'une certaine manière, la liberté, ça consiste aussi à pouvoir se défaire de ce qu'on croit qu'on est, et à aller ailleurs. Mais c'est pas une visite, c'est pas du tourisme. Il faut pouvoir l'expérimenter.
Pour moi, personnellement, expérimenter, ça va dans le sens où, dans plusieurs cas, dans beaucoup de cas, on est né, par exemple, dans des milieux où, automatiquement, on a certaines croyances, on a certains principes, on a une certaine idée de ce qu'on doit suivre pour parvenir à ce qu'on est actuellement. Mais il est très important, surtout quand on a suffisamment de conscience. Par exemple, nous, en terminale, on l'a, à travers les cours, les professeurs, etc., de plonger plus dans ce qui nous permet de vraiment vérifier ce qu'on croit, ce qu'on pratique chaque jour, avec qui on communique, etc., d'y réfléchir en sorte d'introspection un peu, pour vraiment savoir si ce qu'on fait est quelque chose dont on est vraiment convaincu.
C'est donc Camélia avec Catherine Kinsler, philosophe et spécialiste de la laïcité, qui sera ce soir l'une de vos invitées, Patricia Martin, dans l'heure philo, avec Stéphanie Hennette Vaucher, professeure de droit public à l'université de Paris-Nanterre. Sans oublier donc Camélia qu'on entendait, mais aussi Myriam et Léandro du lycée Manouchian, ainsi que leur professeur de philosophie, Oumar Kanaan. Quel casting,
vous l'avez dit.
À ce soir, Patricia Martin.
À ce soir, merci Marion Levin.
Tout savoir sur...
Saft est une filiale de Total Energy, pionnière dans le domaine du stockage d'électricité depuis plus d'un siècle. Isabelle Patrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice France de Total Energy. Alors Isabelle, on utilise tous des batteries.
Oui, nos batteries sont partout. Dans les trains, les avions, les bateaux, les data centers, les satellites, même sur Mars. Nos équipes conçoivent de nouvelles générations de batteries de pointe parce que les applications sont de plus en plus nombreuses.
Et c'est aussi ça, le Total Energy, que les Français finalement connaissent moins.
Bah oui, Total Energy est producteur et fournisseur d'électricité. Et avec Saft, on innove dans les technologies de stockage pour que nos clients puissent utiliser cette énergie 24 heures sur 24.
Et tout ça, ça se passe en France ?
Bah oui, à Bordeaux en particulier, c'est une usine où on fabrique des batteries pour les trains et les avions. C'est aussi le plus important centre de recherche de Saft dans le monde. Vous voyez, l'innovation technologique vient aussi des régions, au service du quotidien des Français.
Merci Isabelle.
Plus d'infos sur saft.com/fr, rubrique développement durable. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Céline Dacosta, le temps est encore perturbé aujourd'hui.
Un ciel couvert avec de la pluie et de la neige en altitude sur les Pyrénées pour démarrer ce vendredi. Partout ailleurs, ça sera bien nuageux, sauf près de la Méditerranée où le soleil brillera largement avec un petit peu de vent. Et puis dans l'après-midi, une nouvelle perturbation pluvieuse arrivera par la Bretagne. Elle gagnera les Pays de la Loire avec un vent soutenu, 70 à 90 km à l'heure en rafale, jusqu'à 110 km à l'heure sur la côte d'Opale. Une perturbation qui va se déplacer vers les régions de l'Est dans la soirée. Pour les températures, matinée froide avec des températures en baisse, quelques gelées sur le centre-est. En baisse également l'après-midi avec 6 à 9 degrés sur la moitié nord seulement, 10 à 15 pour la partie sud.
La météo de Céline Dacosta. Il est 5h59 et Ali Badou est de retour dans ce studio pour démarrer le 6-9 avec un petit avant-goût avant de
Du programme, oui, ce vendredi 5 décembre 2025, chers auditeurs, à 6h20, Marion, spécial Téléthon avec votre invitée Laurence Thiénot-Hermant, qui est présidente de l'Association française contre les myopathies. Vous ferez avec elle un point sur l'état d'avancement de la recherche. Et puis un mot pour vous dire qu'à 8h20, le grand entretien sera consacré à la Syrie. La Syrie, un an après la chute du régime de Bachar el-Assad, avec plusieurs invités et une table ronde consacrée à ce pays.
France Inter, il est 6h.